Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
C'est une deuxième rencontre cette semaine avec Jeanne Ernoux, que je vous avais présentée la semaine dernière, psychologue dans un établissement pénitentiaire pour mineurs à Lavaur. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on a parlé la semaine dernière de ce monde carcéral des mineurs, de ses différents profils. Nous étions restés aussi sur ces relations en fait de parents avec leurs enfants. Un enfant adolescent qui se retrouve dans un établissement pénitentiaire pour avoir fait différentes erreurs dans son parcours d'adolescent, dirons-nous, jarrerons-nous. Les parents sont-ils responsables de tout ?
Oh là non, loin de là. Ah, les parents ne sont pas responsables de
donc
tout.
Donc, vous soulagez les parents qui vous suivent.
Non, les parents sont loin d'être responsables de
alors,
tout.
Qui sont les responsables ? La société ?
La société, probablement, en partie. On dit l'environnement dans le jargon professionnel. Et l'environnement, ça comprend la famille, mais ça comprend les voisins, ça comprend l'école, la société, le quartier. Tout ça, ça fait partie d'un environnement qui va... Et la personnalité du mineur de base, qui est plus ou moins influençable et plus ou moins sûr de lui. Tout ça, ça va rentrer en compte dans le fait qu'il se laisse influencer et, ou qu'il passe à l'acte, qu'il ait besoin de prouver des choses. Voilà, il n'y a pas un responsable à ce qui se passe pour ces jeunes-là. Ils sont d'ailleurs en grande partie responsables eux-mêmes de ce qui se passe. Et pour la majorité, très bien conscients des risques qu'ils prenaient en le faisant, mais ils ont choisi que ça en valait la peine. Et pour beaucoup d'entre eux, les parents tombent des nues au tribunal. Il y a de tout. Il y a des familles où c'est toute la famille qui est impliquée dans les passages à l'acte délictuels. Et donc là, la famille a une part de responsabilité, mais pas que, puisque cette famille évolue dans un environnement propice à ça. Il y a aussi des familles avec les deux parents qui travaillent sur des horaires classiques, et donc ce qui se passe en journée, ils n'ont pas forcément de maîtrise sur ce qui peut se passer à l'école, dans la cour de récréation, sur le trajet du retour de l'école, dans les relations avec les enseignants, avec les profs de sport, avec les copains. Tout ça, les parents n'ont pas de maîtrise sur ça, et il n'y a pas nécessité à en avoir, puisque les jeunes ont besoin de cet espace de liberté, et ils ont besoin qu'on leur fasse confiance sur les choix.
C'est ce que vous avez rappelé la semaine dernière, il est important aussi que les parents posent cet acte aussi de confiance envers cet adolescent. Et c'est bien ça. Difficile. Hein.
Même c'est si c'est pas toujours facile
c'est
de faire confiance à un ado qui va
le
finir en cachette.
Hein. Oui.
Voilà, c'est difficile de leur faire confiance, mais...
C'est bien là, je dirais, la grande difficulté pour les parents d'adolescents. Hein.
Et c'est leur faire confiance et jamais les laisser tomber, malgré tout. Tout ce qu'ils peuvent faire... Et
même
tout,
s'ils font des bêtises. Hein.
Même s'ils font des
si
bêtises.
Si vous aviez un message à passer aux parents dans cette émission, qui leur est un peu destiné, vous qui côtoyez, hein, au quotidien, dans le cadre de votre activité professionnelle, ces adolescents qui se retrouvent pour un temps, une période, dans l'enfermement carcéral.
Souvent, les jeunes qui arrivent en détention, c'est des jeunes qui ont besoin d'être confrontés à une limite qui n'a pas été possible à l'extérieur. Alors, c'est pas forcément que les parents n'ont pas eu envie, c'est que des fois, elle n'a pas suffi, ou qu'ils n'étaient pas physiquement suffisamment présents, ou ils ont baissé les bras. Et à l'adolescence, tous les adolescents ont besoin de se confronter à une limite. Et la limite à laquelle on peut le plus facilement et de manière le plus sécurisante se confronter, c'est les parents, puisqu'on sait que le lien qui nous unit à nos parents, quoi qu'il se passe dans la vie, il existera toujours. Il ne peut pas être rompu, puisque un parent, il reste parent jusqu'à la fin de sa vie, peu importe ce que la loi dit de l'autorité parentale parfois. Un père, c'est un père, une mère, c'est une mère. Et donc, c'est le lien qui est le moins dangereux à aller attaquer, puisqu'il existe de fait. Donc, c'est pour ça que c'est souvent les parents qui prennent toute l'agressivité et les provocations dans la tête à l'adolescence. C'est aussi parce que c'est le seul lien indéfectible qui existe. Et du coup, c'est pour ça que c'est les parents qui prennent tout. Et c'est pas simple. Et il faut l'accepter et le supporter. Et c'est ça qui est difficile en tant que parent à l'adolescence.
Alors vous, vous accompagnez, vous suivez, vous écoutez ces adolescents. Est-ce que vous avez ponctuellement des rencontres ou par téléphone avec les parents concernés?
Ça peut m'arriver.
De ces adolescents.
Ce qui n'est pas toujours simple.
Ça peut vous arriver.
Ça peut m'arriver. Ça m'arrive pas systématiquement.
Ouais.
Ça se réfléchit
à la
dans la prise en charge.
À la demande des parents ou à votre demande ?
Ça peut être les deux. Ça peut être à la demande du jeune, à la demande des parents. Si moi, je pense qu'il y a nécessité, si les éducateurs avec qui je travaille me demandent aussi de pouvoir travailler des choses avec des parents. C'est pas toujours simple parce que du coup, souvent, les parents se mettent à me confier des choses et je ne peux pas être la psychologue et du parent et de l'enfant. On ne peut pas faire ça. Et donc, il m'est arrivé de dire à des mamans, écoutez, là, j'entends que vous avez besoin de parler, c'est normal et légitime, mais ça peut pas être moi. Donc, je leur donne des adresses et je les oriente, bien sûr, je les laisse pas comme ça, je peux pas m'occuper de toi, débrouille-toi, c'est pas ma façon de travailler.
On imagine toute la culpabilité, peut-être, des parents.
Oui, souvent ils se questionnent, qu'est-ce que j'ai fait, à quel moment j'ai pas vu les choses, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, et si j'avais fait ci, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui, et si j'avais fait ça, est-ce que... Bref, on peut pas refaire les choses, et c'est multifactoriel, les passages à l'acte des délinquants, il y a jamais une raison. Et donc parfois les parents sont une des raisons, pas toujours, et parfois une raison plus importante que d'autres, mais en tout cas c'est jamais que la faute des parents. Pour un peu que ce soit de leur faute à un moment donné, quoi.
Comment ont-ils vécu cette période qui se poursuit encore aujourd'hui en étant troublés et ce protocole où tout le monde se plaint à l'extérieur? Eux se plaignent-ils à l'intérieur et de quelle manière ont-ils vécu ce coronavirus au fond?
Alors, ils se plaignent toujours parce que c'est des ados et que les ados se plaignent. Ce qui a été très difficile pour eux au premier confinement, il y a deux choses. Il y a le fait qu'ils étaient enfermés dans leur cellule de 9 mètres carrés 23 heures sur 24. Donc, c'est pas simple. Les parloirs étaient suspendus pour éviter de faire rentrer le virus dans la prison. Donc, pas de contact avec les familles autres que téléphoniques. Et ça, à l'adolescence, c'est très compliqué.
Donc, je répète, on entend, je reformule.
Oui.
Ils vivent dans 9 mètres carrés et pendant la première période du confinement, ils n'avaient qu'une heure de sortie et plus de parloirs.
Il n'y avait plus de parloir. Il y avait une heure de promenade, ça s'appelle, par jour à l'extérieur.
C'est pour que nos auditeurs entendent aussi.
Ils avaient plus un entretien psychologue par semaine et deux créneaux de sport par semaine à l'extérieur. Principalement du foot pour éviter les contacts. Voilà, donc ça fait quand même des journées très enfermées. Et du coup, ce qui les insupportait au possible, c'est quand ils entendaient à la télé des gens qui se sentaient en prison chez eux. Et ils me disaient... Mais madame, ils disent qu'ils sont en prison, mais ils savent pas ce que c'est la prison. Eux, ils peuvent changer de pièce comme ils veulent et ils vivent avec les gens qu'ils aiment. Et effectivement, eux, ils vivent pas avec les gens qu'ils aiment. Ils peuvent pas ouvrir la porte quand ils le souhaitent. Ils peuvent aller aux toilettes et prendre une douche quand ils veulent. Ça, les mineurs, ils ont cette chance-là et ils sont tout seuls dans leur cellule, ce qui n'est pas le cas des majeurs. Mais voilà, la coupure, la rupture avec la famille est hyper difficile à vivre pour eux. Et c'est là qu'on voit que même si c'est des ados, ils ont quand même besoin de leurs parents et que les ados, ils sont un peu adultes sur certains aspects, mais encore un peu enfants sur d'autres aspects. Et donc un ado, il a besoin de ses parents. Il a besoin de faire un câlin à sa maman de temps en temps, mais quand lui le décide. Il a besoin que son père il lui fasse la morale quand il fait des bêtises, quand il est disponible pour entendre ce que son père lui dit, et pas au moment où... Il vient de s'engueuler avec sa copine et où du coup il est pas
dispo. C'est important, là, vous passez un message à tous ceux qui sont parents d'adolescents. Les adolescents ont besoin parfois aussi de câlins.
Bah, bien sûr que oui. Après, quand ils le souhaitent...
C'est eux qui décident, le moment.
Voilà. Hein? C'est comme avec les animaux de compagnie, même si la comparaison est très moche. On peut pas obliger un chat à vous faire un...
Je n'attendais pas du tout cette comparaison, vous me surprenez.
Un câlin. Sinon, il sort les griffes s'il veut pas. Bah, l'ado, c'est un peu ça. C'est pas des chats, hein. Je suis pas en train de dire ça, mais... C'est un peu des animaux sauvages, il faut les apprivoiser. Comme eux, ils sont en train de s'apprivoiser.
C'est un peu aussi votre métier.
C'est complètement mon métier.
C'est que votre métier, d'ailleurs.
Ouais, dans mon métier, quand j'en parle, je parle du petit prince, souvent. Et du renard. Eux, c'est mes petits renards. Voilà. Et du coup, il faut les apprivoiser et aller à leur rythme.
Qu'est-ce qui vous fait aimer très précisément ce métier? Et puis, ce que vous vivez aujourd'hui dans cet établissement pénitentiaire des mineurs? C'est une femme passionnée que
ce métier.
C'est une femme passionnée
j'adore
que je
mon
rencontre.
Métier. En fait, je me dis que.
Mais qu'est-ce que vous adorez très précisément?
Le lien avec les jeunes. Est-ce que ça peut m'apporter et toutes les. Je trouve pas le mot. C'est plein de surprises tout le temps. On ne sait jamais à quoi s'attendre.
Ils sont inattendus.
Il n'y a pas de routine. Il n'y a pas d'habitude. C'est des surprises permanentes. Et des belles surprises
bonne
pour la
mauvaise,
majorité.
Mais,
oui, mauvaise parfois, mais la majorité du temps, c'est des bonnes surprises.
Vous me permettez, mais la vie est belle en prison.
Ah non, j'irai pas jusque-là. C'est dur la prison. C'est dur la prison et je suis un petit peu, j'ai un jeune qui me disait ça l'autre jour. Mais moi j'aime bien quand je viens te voir parce que pendant une heure j'ai l'impression que je suis plus en prison. Moi c'est mon objectif premier et si j'ai réussi ça, j'ai tout gagné. Après je sème des graines, elles pousseront ou pas, c'est à eux d'en faire quelque chose ou pas, dans 10 ans, dans 20 ans ou jamais, ça leur appartient. Moi je sème et puis après ils arroseront ou pas, ils cultiveront ou pas, ça c'est leur responsabilité. Mais l'idée c'est d'apaiser un petit peu cette période qui est quand même hyper difficile, où ils sont face à eux en permanence et souvent ils ont une histoire de vie tellement difficile que se retrouver face à soi, c'est hyper violent. C'est hyper violent de se retrouver face à ce qu'on a fait, face aux difficultés auxquelles on a été confronté dans notre histoire. Et donc, c'est horrible, la prison.
Des dépressions ? Des suicides ?
Alors, des dépressions, oui. Des suicides, très peu, parce que... en établissement pénitentiaire, très peu, pour mineurs. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels. Il y a beaucoup d'éducateurs, il y a beaucoup de temps en dehors de la cellule. Ils ont les téléphones en cellule pour appeler leur famille quand ils le souhaitent. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour éviter ces passages à l'acte suicidaires, qui sont quand même beaucoup plus importants dans la population carcérale que dans la population normale. L'enfermement, ça crée un risque suicidaire supplémentaire. D'ailleurs, on parle de choc carcéral à l'arrivée en détention, et c'est une période où on est particulièrement vigilant sur ces passages à l'acte suicidaires ou d'automutilation, scarification. Parce que, voilà, cet enfermement, il faut... C'est tellement tendu à l'intérieur qu'il faut évacuer la tension. Donc soit à travers des bagarres, parfois, soit à travers des automutilations, soit avec des consommations, parce que malgré tout, ils arrivent toujours à faire rentrer, je sais pas trop comment, mais ils ont des idées, à faire rentrer ce dont ils ont besoin pour éviter de pincer.
Et ils réussissent.
Ah, bien sûr.
Ils sont doués.
Ils sont très doués. Ils ont une intelligence pragmatique assez hallucinante. Qu'ils arrivent à trouver des solutions à tous leurs problèmes.
Est-ce que vous vous attachez ?
Oui. Je m'attache beaucoup et je me détache assez vite. Parce que sinon, je ne pourrais pas travailler.
Pour rester professionnelle.
Voilà. Mais effectivement, c'est attachant. Je pense qu'on ne peut pas faire ce métier sans s'attacher un minimum. Sinon, ils le sentent. Il y a une distance qui est trop importante qui fait qu'ils ne parlent pas. Ils ont besoin de cette convivialité et de cette chaleur un peu dans le cadre des entretiens pour se sentir suffisamment détendus et à l'aise pour s'autoriser à parler et à faire confiance. Et je pense que c'est des jeunes, particulièrement ceux-là, qui ont besoin d'être un peu contenus et enveloppés pour se sentir bien et s'autoriser à parler.
Alors, dans la majorité des cas, et ça sera vraiment la dernière question, tous ces profils que vous avez pu côtoyer en plus de 3 ans, presque 4 ans aujourd'hui, est-ce que la réinsertion est possible pour eux ?
Oui.
En majorité, hein ?
Je ne sais pas les chiffres, j'ai aucune idée des statistiques, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui s'en sortent. Après, il faut savoir que ceux qui arrivent en détention, c'est les plus compliqués, ceux qui ont déjà... commis beaucoup de passages à l'acte avant. Donc, ils ont une proportion à récidiver supérieure aux autres. Mais il y en a quand même beaucoup qui s'en sortent.
Je vous remercie pour cette intervention du jour dans cette émission. Et je vous dis peut-être à une prochaine fois. Merci à vous, Jeanne Ernoux, psychologue donc dans cet établissement pénitentiaire des mineurs à Lavaur, qui compte aujourd'hui 58 jeunes incarcérés, dont 4 filles. Une majorité de garçons encore. Merci et peut-être à une prochaine fois. Au revoir.
Au revoir.